Romains chapitre 1, versets 8 à 17. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous, par Jésus-Christ, parce que l'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu, en qui je rends un culte à mon esprit, par la bonne nouvelle de son Fils, m'est témoin que je fais continuellement mention de vous. Je demande toujours dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, une occasion favorable pour venir vous voir. Car je souhaite vivement venir vous voir pour vous communiquer quelques dons de la grâce, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt que chez vous, nous soyons tous encouragés, chacun par la foi de l'autre, par la vôtre comme par la mienne. Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que je me suis souvent proposé de venir vous voir, pour avoir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je suis débiteur envers les Grecs, envers les barbares, envers les sages, comme envers les gens stupides. De là, mon désir de vous annoncer la bonne nouvelle à vous aussi qui êtes à Rome. Car je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, « Celui qui est juste en vertu de la foi vivra. » Est-ce que vous avez eu des démarcheurs au téléphone? Des gens qui veulent vous proposer quelque chose? On les voit venir de loin. On les écoute un peu et puis on raccroche. Non, c'est pas pour moi. À l'époque, l'apôtre Paul a fait une démarche auprès des chrétiens de Rome. Aujourd'hui, est-ce que l'on écouterait l'apôtre ou est-ce qu'on lui raccrocherait au nez? Le titre du message, Paul, le démarcheur de l'Évangile. La démarche de Paul est remplie d'amour pour les Romains. La démarche de Paul est remplie d'amour pour les Romains. J'ai souligné dans mon texte 14 mentions des chrétiens de Rome. Cela indique l'affection de Paul. Ils sont au centre de sa démarche. Ses prières pour eux indiquent aussi son affection. Merci Seigneur pour cette église de Rome. Seigneur, permets que je puisse les voir un jour, pour qu'ils puissent être fortifiés, pour que l'on soit tous ensemble encouragés dans la foi. Donc verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu pour vous tous par Jésus-Christ, parce que l'on parle de votre foi dans le monde entier. Paul est un homme reconnaissant. Et qu'est-ce qui le rend reconnaissant? Qu'il y ait des chrétiens à Rome et qui de plus ont une très bonne réputation, un très bon témoignage. Et il dit merci à Dieu pour tous ces chrétiens. Et ils devaient être nombreux. Ensuite, permets que je puisse les voir un jour, Seigneur. Dieu, verset 9, en qui je rends un culte à mon esprit par la bonne nouvelle de son Fils, mes témoins, que je fais continuellement mention de vous. Je demande toujours dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, une occasion favorable pour venir vous voir. Grâce à l'Évangile, Paul rend un culte en pensée. Voilà qui tranche avec les religions de l'époque. Pas besoin de se rendre dans un temple pour prier. Pas besoin de protocole ni d'intermédiaire entre lui et son Dieu. C'est ce que permet l'Évangile de Jésus. Un contact direct avec son Dieu en permanence. Alors nous sommes peut-être tellement nous autres habitués. Mais pour l'époque, ce devait être assez innovant, nouveau, que de pouvoir ainsi avoir une communion avec Dieu selon les paroles mêmes de Jésus. Le temps vient où ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Plus besoin de se rendre dans un temple, plus besoin de faire suivre des rites qui n'ont pas que l'on ne comprend pas toujours, et dans l'espoir que un Dieu que l'on sait lointain et qui ne s'inquiète pas de nous, peut-être, puisse nous écouter et nous être favorable. Quelque chose de nouveau. On peut noter aussi, dans ces demandes de Paul, un esprit de soumission à Dieu, par la volonté de Dieu. C'est de Dieu que dépendent les circonstances favorables à toute chose et en toute chose. Paul demande à Dieu de voir, de visiter les chrétiens de Rome pour qu'ils puissent être fortifiés. Car je souhaite vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons de grâce, quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Vous le savez, la Bible compare la conversion à une nouvelle naissance. Et un nouveau-né a besoin de soins, il a besoin de nourriture, il a besoin d'être protégé, il a besoin d'affection. Et même quand on grandit, devenu adulte, c'est pas pour cela qu'on n'a pas de besoins, qu'on n'en a pas besoins, que l'on s'occupe de nous. Alors Paul, qui sait tout cela, veut apporter de bonnes choses spirituelles à ces chrétiens de Rome. Pour cela, il veut absolument les voir. La lettre qu'il écrit là n'est là que pour préparer sa venue. Rien ne peut remplacer une communication de vive voix, en chair et en os, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et en effet, envoyer un email, faire un WhatsApp, faire un postcard, pour des gens que l'on ne connaît pas, on dira, ce n'est pas la meilleure façon d'entrer en contact avec vous. Ce n'est pas la meilleure façon de faire de l'évangélisation, comme on dit. Et de l'autre côté, vagabonder sur Internet, ce n'est pas ce qui va nous faire grandir spirituellement. L'évangélisation et la croissance dans l'évangile nécessitent un contact direct, et Paul le sait bien. Sinon, il se serait économisé des milliers de kilomètres de voyage à pied dans son ministère. Il aurait simplement envoyé des lettres depuis Jérusalem. Ça aurait été tellement plus simple. Ou depuis une autre grande ville. Certes, il l'a fait quelques fois quand il était en prison parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Il y a une autre raison pour laquelle Paul sollicite une visite chez l'église de Rome. Verset 12. Ou plutôt que chez vous, nous soyons tous encouragés, chacun par la foi de l'autre, par la vôtre comme par la mienne. Il y a un miracle qui se produit lorsque les chrétiens sont rassemblés. Ils se consolent, ils s'encouragent, ils s'exhortent les uns les autres car Dieu est au milieu d'eux. Le grand apôtre Paul avait besoin de communion fraternelle autant que vous et moi. Alors, aujourd'hui, comment se manifeste notre amour envers nos prochains? Est-ce que nous prions pour eux? Est-ce que nous voulons leur apporter quelque chose de bon? Est-ce que nous voulons être dans leur présence? Vous avez peut-être des progrès à faire. Vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, j'ai beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Deuxième point. La démarche de Paul est dépendante de Dieu. La démarche de Paul est dépendante de Dieu. Pleine d'amour, mais dépendante de Dieu. Ce sont les versets 13 à 15 que je vais lire. Je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que Je me suis souvent proposé de venir vous voir pour avoir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je suis débiteur envers les Grecs, comme envers les barbares, envers les sages, comme envers les gens stupides. De là, mon ardent désir de vous annoncer la bonne nouvelle, à vous aussi, qui êtes à Rome. Pour être très honnête dans sa démarche, puissions-nous l'être aussi. Il indique son intérêt personnel à voir du fruit. Mais Dieu n'a pas exaucé la prière de Paul. Pourtant, ses convictions étaient très bonnes. Paul indique son intérêt personnel dans sa démarche à voir du fruit. Avez-vous des arbres dans votre jardin ou plantez-vous des fleurs? N'est-ce pas pour avoir du fruit? Si vous avez chez vous des plantes, comme on dit, plantes vertes qui ne fleurissent jamais, vous allez être bien déçus. Ainsi, la parole de Dieu nous apprend que Dieu recherche des fruits dans ses enfants. Et Paul a le souci des fruits. Il veut des âmes pour Jésus. Il veut des progrès spirituels pour Jésus. Il veut que des victoires soient remportées dans la vie de croyants pour Jésus. Les fruits sont pour Jésus. Et Dieu a répondu à la prière de Paul par des empêchements. Verset 13, fin du verset 13. Je demande dans mes prières, je souhaite vivement. Je me suis souvent proposé de venir, mais j'en ai été empêché. J'en ai été empêché. Méfions-nous des chrétiens à la grosse tête spirituelle qui confondent leurs désirs avec la volonté de Dieu. L'exemple que nous avons de Paul est radicalement différent. Paul propose et Dieu dispose. Paul est à Corinthe, en Grèce, quand il écrit cette lettre, vers l'an 57-58. Et Rome est à 1200 km à l'ouest, et lui se dirige direction opposée à l'est, vers Jérusalem, située à 3000 km, parce qu'il doit apporter des offrandes à l'église de Jérusalem qui souffre. Pourquoi la prière de Paul n'est-elle toujours pas exaucée? Pourquoi Paul est-il en péché? Est-ce que parce qu'il n'est pas assez spirituel? Pourtant, ses motivations sont bonnes, versets 14 et 15. Je suis débiteur envers les Grecs, envers les barbares, les sages, les gens stupides. Nous avons l'information ici que l'Évangile concerne tout le monde, toutes les classes sociales, tous les pays, tous les âges, toutes les conditions d'éducation, que l'on soit instruit ou pas, que l'on soit dans un pays ou dans un autre, d'une culture ou de l'autre, l'Évangile, Paul sait que l'Évangile concerne tout le monde. Et il a un vif désir d'aller à Rome, la grande capitale de l'Empire, un lieu forcément stratégique, tous les chemins mènent à Rome. Le sien, non, mais c'est le proverbe de l'époque. Et de Rome, évidemment, des personnes partent aux quatre coins de l'Empire romain. Et l'Évangile a besoin d'être connu, d'être bien implanté dans cette grande ville. C'est stratégique, n'est-ce pas? Les motivations de Paul sont bonnes. Cette magnifique lettre est le fruit de la prière non exaucée de Paul. Il ne peut pas aller à Rome. Il est contraint d'écrire cette lettre pour préparer sa venue. Il a toujours le désir d'aller, il ne sait pas quand, mais il veut informer l'église de Rome qui pense à eux, qui ne les oublie pas. Et cette lettre où il expose toute la doctrine du salut de façon si précise, si convaincante, va avoir une répercussion énorme 15 siècles plus tard. Il ne le sait pas. Dieu le savait, Dieu l'avait prévu. Lorsqu'un moine, Martin Luther, va découvrir, redécouvrir le salut par la foi seule en Jésus-Christ, et avec plusieurs autres, le mouvement de la réforme va démarrer et cela va créer un bouleversement dans toute la chrétienté, avec des répercussions sur toute la civilisation occidentale. Et aujourd'hui encore, de nos jours, les bonnes choses que nous pouvons connaître de notre civilisation occidentale qui est parfois tant décriée, ces bonnes choses-là ont bien souvent leur origine dans la réforme, que ce soit de façon directe ou indirecte. Dieu toutefois répondra à la prière de Paul. Il ira à Rome 5 ans plus tard en tant que prisonnier. Alors, sommes-nous toujours, comme Paul, bien transparents dans nos intentions? Il voulait des fruits pour Jésus-Christ. Sommes-nous toujours transparents lorsque nous faisons des démarches sur les autres? Vous savez, quand vous avez des démarcheurs au téléphone, ils vous parlent en vous cachant quels sont leurs objectifs. Ou ils vous les révèlent bien tardivement. Vous les comprenez bien tardivement. Ce n'est pas le cas de Paul ici. Tout au début de sa lettre, il indique ses intentions de façon transparente. Cela peut être une des raisons pour lesquelles nos prières ne sont parfois pas exaucées. Parce que derrière les demandes à Dieu, on a des intentions cachées. Que l'on a, on ne veut pas s'avouer même des fois à soi-même. Une autre raison des prières non exaucées, peut-être que Dieu prévoit quelque chose de meilleur. Dans tous les cas, acceptons comme Paul ses décisions et ses empêchements. Après ces préliminaires, Paul va entrer dans le vif du sujet, présenter l'évangile par écrit dans les chapitres qui vont suivre. Faute de pouvoir le faire par oral, il va le faire par écrit. Et les deux versets qui suivent sont un résumé de tout ce, un condensé, on peut dire, de tout ce qu'il va exposer par la suite. Alors, si l'on ne comprend pas tout, ce n'est pas grave. Il va bien exploser, bien dérouler les choses en suivant. La démarche de Paul. Communiquer l'évangile. Et il nous en a dit déjà beaucoup de choses sur cet évangile. La semaine dernière, on avait vu juste dans les salutations que l'évangile était biblique, qu'elle était enracinée dans l'Ancien Testament, centrée sur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, le Seigneur. Elle transformait également les personnes qui croient en Jésus, pour les rendre obéissants à Dieu. Elle était pour la gloire de Jésus. Elle était universelle pour tout le monde. Ça a été rappelé encore aujourd'hui, personnel. L'appel est pour tous. Mais la réponse à l'appel est personnelle. Aujourd'hui, nous avons vu que l'évangile nous connecte à Dieu. Par l'évangile, Paul rend un culte en esprit, sans intermédiaire, où qu'il se trouve. L'évangile est incarné. Dieu aurait pu utiliser les anges pour diffuser le message de l'évangile. Les anges auraient pu faire des annonces spectaculaires dans le ciel, au son de la trompette, ou alors ils auraient pu venir écrire dans toutes les maisons, sur les murs, l'évangile pour que les personnes se convertissent. Est-ce que cela aurait marché? Je ne sais pas. Dans son commentaire sur l'épître aux Romains, John MacArthur raconte l'histoire d'un homme qui a investi tout son argent pour louer une montgolfière, pour pouvoir, de là-haut, faire tomber une pluie de traités sur les personnes de son voisinage, au lieu simplement de pousser la porte, faire connaissance avec son voisin et pouvoir avoir l'occasion de lui dire un jour l'Évangile. Paul voulait voir les chrétiens de Rome pour les toucher avec l'Évangile. Il voulait les voir. Il est à Corinthe et il a enseigné aux Corinthiens, on le sait par les lettres, que les chrétiens sont des lettres ouvertes de Christ pour les personnes qui les entourent. Ils sont des lettres ouvertes de Christ pour les personnes qui les entourent. L'Évangile est incarné. Il dit également que le chrétien est un ambassadeur de Christ. Vous savez, les ambassadeurs, ce sont ces personnes qui sont dans un pays étranger, hein, et qui représentent le pays qui les a envoyés. Et là, ça ne peut être qu'une représentation en chair et en os. Hein. Ils sont sur place. Ils sont dans un pays étranger. Paul dit également que chaque chrétien porte le parfum de Christ. Il porte sur eux le parfum de Christ. Et vous serez d'accord avec moi, un parfum, ça ne voyage pas par les moyens de la technologie informatique. Un parfum, ça ne voyage pas sur votre à l'aide d'un ordinateur, ni de quoi que ce soit. Il faut être sur place pour que les gens puissent sentir le parfum de Christ en vous. L'Évangile est incarné même dans la Bible papier. Les textes ont été écrits par des personnes avec un caractère particulier, dans des circonstances particulières. Toutes ces lettres sont marquées par les personnes qui les ont écrites et par les circonstances qu'ils étaient en train de vivre. Même sur le papier, l'Évangile est incarné, la Bible est incarnée. Ce n'est pas le Coran. La Bible, la parole de Dieu, l'Évangile est incarné. Autre point que nous avons appris, l'Évangile s'épanouit dans la communion. Je souhaite vivement vous voir pour que nous soyons tous encouragés chacun par la foi l'un de l'autre. Et c'est vrai que cela fait du bien d'être entouré de personnes. Nous avons été empêchés de nous réunir en présentiel, comme on dit, pendant de nombreuses semaines cette année. Et je sais que beaucoup, beaucoup d'entre nous, une grande majorité, n'aimons pas les réunions virtuelles, apparaître sur une caméra, tout ça. C'est pas mon truc. Mais n'est-ce pas mieux que rien ? Si l'apôtre Paul était là, au 21e siècle, dans les circonstances que nous vivons, que ferait-il ? Que ferait-il ? Quelles seraient ses recommandations aux églises ? Alors, lisons maintenant les versets 16 et 17. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle. Elle est en effet puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord, mais aussi du grec, car en elle, la justice de Dieu est révélée en vertu de la foi et pour la foi. Ainsi qu'il est écrit, celui qui est juste, en vertu de la foi, vivra. Pourquoi Paul parle-t-il de honte concernant l'Évangile ? Cela fait écho à ce que nous avons vu dans la première aux Corinthiens. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1,18. C'est pas bien d'avoir honte de Jésus et pourtant. Cela nous arrive bien souvent, n'est-ce pas? Je bénis le Seigneur que Paul n'ait pas écrit à ce stade de la lettre « N'ayez pas honte de l'Évangile », mais il a écrit « Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile et je vais vous dire pourquoi. » L'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quoi avons-nous besoin ce matin? De quoi avons-nous besoin en général? D'être sauvés, d'être sauvé de toute notre misère, tant spirituelle que physique, lorsqu'on enlève les masques. La puissance de Dieu s'est particulièrement révélée par la résurrection de Jésus. Et l'Évangile est puissance de résurrection spirituelle et physique. L'Évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile révèle la justice de Dieu par la foi seule. La justice de Dieu est le grand thème que va développer Paul dans son épître, parce qu'il fait appel à beaucoup de questions que tous les hommes se posent. S'il y a un Dieu qui existe, pourquoi se passe-t-il cela? Pourquoi ces injustices sur la terre? Pourquoi Dieu ne punit pas les méchants? Pourquoi Dieu punit les méchants de cette façon-là? Comment on peut être pardonné? Comment nos péchés peuvent être effacés? Comment les torts faits à autrui peuvent être arrangés? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Et l'apôtre développe tout cela dans sa lettre. La foi est un grand thème de l'épître. Par la foi, pour la foi, ou alors par la foi et la foi seulement, ou de foi en foi, le juste vivra. Paul fait référence pour expliquer ce qu'est la foi. Peut-être qu'on peut la trouver curieuse expression, par la foi et pour la foi. Il développe tout cela en faisant référence au prophète Habacuc. Le juste vivra par la foi. C'est un petit peu trop juste pour le développer ce matin. Mais qu'est-ce que la foi ? Je vous propose cette explication. La foi, c'est croire avec fidélité dans ce que Dieu dit. Croire avec fidélité dans ce que Dieu dit. Quelle réponse ont donné, quel accueil ont fait à la lettre l'Église de Rome? Quelle réponse allons-nous donner, nous, ce matin, à Paul, le démarcheur de l'Évangile? Quelqu'un dira, j'ai pas besoin d'être sauvé, cela va, merci Dieu, mais je n'ai pas besoin de toi et de ton Évangile. Et on raccroche. Vraiment, en êtes-vous sûr? Je pense que ça vaut quand même la peine de lire la suite de la lettre. Quelqu'un dira, allez vers les autres, parler de Jésus, mais j'ai tellement de problèmes dans ma vie. J'avance pas, j'en ai honte. Je désespère que cela change un jour pour moi. J'ai tout essayé. Vraiment, je pense que ça vaut la peine de lire et d'écouter ce que Paul a à dire dans sa lettre. Ou bien, quelqu'un dira, Paul, j'étais chrétien avant toi. Cela fait 30 ans que je suis chrétien. Je me suis converti lors de la première Pentecôte, avec la prédication de Pierre. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre? J'ai 30 ans de vie chrétienne. Reste à Corinthe, Paul. Il n'y a pas besoin que tu viennes à Rome. Vraiment. Vraiment. Lisons la suite de la lettre. Seigneur, merci pour la richesse de ton Évangile. Merci pour le salut par la foi seule. Croire ce que toi tu dis et conformer nos vies à ce que toi tu dis. Merci Seigneur pour ce message qui est pour tout le monde. Petit qui est grand, instruit ou illettré, d'un pays ou de l'autre, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre, ce message nous concerne et il est pour nous. Merci, Seigneur, de cela. Merci pour tous ces chrétiens de Rome, avec Paul, et pour tous les chrétiens du monde entier, Seigneur, qui ont dit oui et qui ont répondu à ton appel, et qui sont devenus de nouvelles créations, de nouvelles créatures. Seigneur, merci pour la transformation qu'il est possible par ton évangile, merci pour cette relation avec toi qui s'ouvre par l'évangile. Merci pour l'incarnation de l'évangile, merci parce que tu as besoin de nous pour la porter au loin. Tu l'as choisi ainsi, Seigneur. Merci de cette confiance que tu nous fais. Merci de ton aide également. Tu ne veux pas que nous restions dans la honte et dans l'échec et de tourner en rond dans nos vies, mais tu veux nous faire avancer. Merci, Seigneur, parce que tu as suscité bien des frustrations à l'apôtre Paul pour qu'il écrive cette lettre, Seigneur, inspirée de toi et qui fait un travail formidable aujourd'hui dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de cela. Merci pour la bénédiction qu'il y a là où un ou deux sont assemblés à ton nom. Merci pour cette foi qui grandit lorsque nous sommes en contact les uns avec les autres. Merci pour cette édification mutuelle que tu souhaites. Merci parce que toute la gloire te revient. Merci pour l'amour, l'exemple de l'amour de Paul pour les chrétiens de Rome. Et Seigneur, s'il était là aujourd'hui, il nous aimerait nous, même si nous sommes si peu nombreux et si fragiles. Merci Seigneur pour l'exemple qu'il nous laisse de prière, de reconnaissance, de vouloir rencontrer d'autres chrétiens, de vouloir leur apporter quelque chose venant de toi et de vouloir, Seigneur, simplement les voir. Merci pour également de faire qu'il y ait des conversions, de faire qu'il y ait des personnes qui se tournent vers toi, des personnes qui écoutent ta parole et qui soient touchées et que ce miracle s'opère, des personnes qui s'ouvrent à toi et qui deviennent des enfants de Dieu, Seigneur. Merci d'exaucer cette prière dans le nom de Jésus. Amen.